Dieu vous bénisse. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour ce grand privilège ce soir que nous avons de pouvoir nous rassembler. Nous sommes venus dans le but que tu nous corriges, que tu nous conseilles, que tu nous encourages, que tu nous réprimandes, que tu nous conduises au tout point, que tu nous éclaires concernant ta parole. Et comme c'est une parole qui donne aussi la joie, veuille remplir nos cœurs de joie ce matin, ce soir, et que tu prennes le contrôle de toutes choses. Pardonne-nous nos offenses, sois au milieu de nous à cause de ta bonté et de ta promesse que tu as faite, et nous nous souvenons de ceux qui ont besoin de ton intervention, avec lesquels nous nous rassemblions ici d'habitude. Que tu sois avec eux, avec chacun d'entre eux, et ceux qui ont besoin vraiment que tu interviennes, pose-leur la main. Comme disait ce centenier romain, n'a pas besoin à nous accompagner jusqu'à eux, mais si tu prononces seulement une parole, ils seront rétablis. Nous attendons à toi, bénis ta parole, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Ce soir, nous lirons dans Ésaïe 28. Je ne lirai pas tout à fait comme vous, parce que moi, je veux le lire dans Darby. Mais c'est juste pour le titre, sinon ça dit la même chose. Ésaïe 28. Verset 21. Car l'Éternel s'élèvera comme la montagne de Peratsim, il sera ému de colère comme dans la vallée de Gabaon, pour faire son œuvre, et son œuvre étrange, et pour accomplir son travail inaccoutumé. Amen. Pouvons nous asseoir. Son travail inaccoutumé, c'est-à-dire inhabituel. Parce que Dieu réside dans l'inhabituel. Son œuvre est souvent difficilement crédible par les hommes. D'ailleurs, dans Habacuc, il nous est dit, dans Habacuc, chapitre 1er, verset 5, jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement. Ça étonne. D'épouvante, ça fait peur. Car je vais faire en vos jours une œuvre. C'est un travail que vous ne croiriez pas si on la racontait. Donc, quand on ne croit pas, Dieu n'est pas étonné. Mais ceux qui croient, Dieu les bénit. Il fait des choses inhabituelles, mais les choses inhabituelles qu'il fait sont toujours, toujours en accord avec sa parole. Il ne dit jamais, il ne fait jamais quelque chose en dehors de sa parole. Tout est programmé selon sa parole. Il promet d'abord la chose, et puis après, il envoie quelqu'un, un instrument par lequel il peut manifester cette promesse, hein, par lequel il peut manifester la parole qu'il a prononcée. La venue d'un agneau qui enlève le péché originel, le péché du monde, a été promis depuis la Genèse. Genèse 3. Il est étrange que Dieu n'accepte pas les feuilles de figuier qui semblaient certainement aux yeux d'Adam et Ève, qui semblaient efficaces pour pouvoir se couvrir. Il est étrange que Dieu n'accepte pas le sacrifice de Caïn alors qu'il choisissait les meilleurs produits de la terre. C'est étrange. Mais Dieu n'est pas dans l'habituel. On a tendance à offrir à Dieu ce que nous voyons beau, ce que nous croyons que ça lui fera plaisir. Comme une fois, quelqu'un était venu, il voulait que je prie pour lui, il avait des projets, et il voulait qu'on prie pour les projets, pour son projet. Et il a dit que si Dieu bénissait le projet, il viendrait avec un certain montant qu'il ferait comme offrande à l'assemblée. Je lui ai dit, ben, peut-être que l'assemblée en aura besoin, mais Dieu n'en a pas besoin. Amen. Ça peut sembler être un grand don, mais Dieu n'en a pas besoin. Les offrandes que l'on apporte ici à l'Assemblée, ça sert à notre confort, ça sert à notre chauffage, ça sert à nos chaises là où nous sommes assis, ça nous sert à nous couvrir de mauvais temps. Hein, n'est-ce pas? C'est pour notre confort. Dieu n'en a pas besoin. Mais pour que la maison de l'Éternel tienne, ok, on peut apporter nos offrandes. Dieu, ce dont il a besoin, c'est de nos cœurs. Dieu a besoin de nous tous, de nos êtres entiers. Alors, dans Genèse 3, 21, Dieu regarde, il fait comprendre à Adam et Ève que la feuille de figuier, c'est pas bon. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Et plus tard, en naissant, lorsque Caïn et Abel sont venus au monde, certainement ils ont compris qu'il fallait offrir, il fallait faire des offrandes à Dieu. Et Caïn était laboureur. Hein, au chapitre 4, n'est-ce pas, verset 2. Ève enfanta encore son frère Abel, après avoir enfanté Caïn. Caïn semblait être l'aîné. Abel fut berger. Ils étaient des jumeaux, on le sait, mais Caïn étant le premier. Et Caïn fut laboureur. Abel fut berger. On n'est pas berger de gros bétail, n'est-ce pas? On en est propriétaire, on les met dans les pâturages, mais on est surtout berger d'agneaux, de petits bétails, hein, les brebis et les moutons. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Et il s'agissait d'un agneau. Et cet agneau, étrangement, devait être Dieu. Cet agneau qui était préfiguré là-bas avec le sacrifice d'Abel, c'était Dieu. Nous allons lire cela dans Jean chapitre 1er. Nous voyons d'abord Jean-Baptiste nous présenter l'agneau de Dieu. L'agneau d'Abel ne suffisait pas, il fallait que ça soit l'agneau de Dieu. Dans Jean chapitre 1er, verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'était l'agneau de Dieu que Jean présentait au monde entier. Maintenant, c'est ce qui fait de lui d'ailleurs, le plus grand prophète, hein, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'en a pas paru de plus grand que lui. C'est le seul prophète ayant présenté le Seigneur Jésus-Christ au monde entier. Cet agneau, n'est-ce pas, devait être Dieu. Ésaïe nous dit ceci. Ésaïe chapitre 7. C'est une œuvre étrange. Verset 10. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. » Akaz répondit, « Je ne demanderai rien. Je ne tenterai pas l'Éternel. » Que Dieu le bénisse. Ésaïe dit alors, « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu ? C'est pourquoi le Seigneur lui-même, pas quelqu'un d'autre, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Amen. Et Emmanuel, Gabriel, en donne la signification. Dans Matthieu, chapitre 1er. Verset 22, « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. » C'est Ésaïe 7,14 qui vient de citer. Ce qui signifie « Dieu avec nous ». Et comme on l'a toujours insisté, il ne s'agit pas du Fils de Dieu avec nous. Il s'agit de Dieu lui-même avec nous. Amen. Et chaque nom donné dans la Bible reflète justement la personne qui porte ce nom. Les noms, quand on parle de Jacob en tant que Jacob, supplanteur, c'est parce qu'il l'était. Quand on parle d'Adam en tant qu'Adam tiré de la terre, parce qu'il l'était. Amen. Tous les noms ont une signification précise et reflètent la personne. Et ici, il s'agit de Jésus-Christ, enfin, c'est lui, il s'agit de lui-même, et ce nom veut dire Dieu avec nous, Emmanuel. Sa naissance à Emmanuel, à Jésus-Christ. D'abord, sa conception déjà était inhabituelle. Joseph a voulu divorcer. Au verset 18, il nous est donné la manière dont arriva la naissance de Jésus-Christ. si Matthieu donne la manière dont cette naissance est arrivée, c'est parce qu'elle n'est pas arrivée comme toutes les autres naissances. C'est arrivé d'une manière tout à fait étrange, d'une manière inhabituelle. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, ne venez pas me dire que Marie n'était pas sa mère. La Bible nous dit Marie, sa mère. Amen. Ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Ça va? Et ce détail qui est donné n'est pas anodin non plus. Il y a un temps où les fiancés ne sont pas encore ensemble. Ce temps-là doit exister. Et à la fin de ce temps-là, généralement, le papa, ici dans la Bible, le papa de l'époux organisait un grand festin. Et aujourd'hui, les gens ont perpétué cela en d'abord en voulant passer par l'église en robe blanche ou en costume cravate, et puis ensuite il y a le grand festin qui vient le soir. Mais le festin était organisé le jour où le couple pouvait enfin vivre ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, tribu de Juda, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle ne t'a pas trompé. Il s'agit de l'œuvre du Saint-Esprit. C'est une œuvre que si on raconte, les gens ne croiront pas. D'ailleurs, les Juifs n'y croyaient pas. Dans Jean 8, ils vont dire au Seigneur, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. C'était une manière de lui dire que lui, il était illégitime. Mais il ne l'était pas. Amen. Il était tout à fait légitime, n'est-ce pas? Il était fils du Dieu très haut, n'est-ce pas? Conçu par l'ombre du Saint-Esprit. Amen. Et vous savez, en tant qu'agneau de Dieu, donc d'abord, sa naissance a été inhabituelle. Et l'annonce de la venue du Messie, personne ne pouvait imaginer un seul instant qu'il naîtrait dans une étable. Sa naissance est inhabituelle, dans un endroit inhabituel, son travail inhabituel. Ouais. Et il n'y a pas d'autres religions dans le monde. Vous n'en connaîtrez aucune dans le monde qui vous parlerait de la mort de leur Dieu. Pour toute religion, Dieu ne peut pas mourir. Discutez avec un témoin de Jéhovah, il vous dira exactement ça. Dieu ne peut pas mourir une seconde. C'est ce qu'on m'a dit. Eh bien, moi, je sais une chose, que notre religion à nous nous enseigne que Dieu s'est fait un homme mortel. Il est venu sur la terre en tant qu'homme mortel afin de mourir pour nous sauver, puisque l'agneau, en étant immolé, en versant son sang innocent, n'est-ce pas ? Il effaçait nos péchés. Donc, aucune autre religion ne viendra vous dire que leur Dieu est mort un jour. C'est grave. Mais nous, on enseigne cela, que notre Dieu est mort un certain jour. Pour eux, ça ne peut pas arriver. C'est inhabituel d'entendre une telle religion. Le monde ne peut pas croire cela. Et beaucoup de soi-disant chrétiens ne croiront jamais ça. Et pourtant, c'est la vérité. La parole de Dieu, la parole du vrai Dieu, parle de sa venue en tant qu'homme, afin de mourir pour nous. Mais il ne restera pas mort. C'est la seule religion qui parle de résurrection. Les autres religions vous parlent d'un paradis, ben, d'un paradis là-bas d'où vous serez, mais la résurrection, ils n'en parlent pas. Parler de la résurrection est une chose inhabituelle. Quand, vous savez, même pour les prophètes, c'était difficile de croire en ces choses. Hein? Dans Ézéchiel, disons, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. L'Esprit de Dieu est capable de transporter quelqu'un. Vous allez me dire que c'est immatériel, mais Dieu le fait par sa parole. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. Donc, en esprit, me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Allez passer, comment dirais-je, les rayons X, on vous dira que ces eaux-là ont des milliards d'années. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ? Question. Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, dis aux eaux là, est-ce qu'ils entendront ? Ils entendront. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Amen. Il parle aux ossements. Ossements, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Et les eaux vont entendre. Ce qui fait, si vous vous retrouvez à 2 mètres sous terre, complètement desséché, Dieu peut vous parler. Et la parole, vous l'entendrez. Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, en les eaux, hein, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Quelqu'un peut fuir. Hein? Dans un cimetière, vous entendez un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Les gens vont fuir. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, voici leur vin des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Oh, c'est une résurrection à la chaîne. C'était très difficile pour Cléopas et son compagnon de croire en cela. Quelqu'un qu'ils ont vu mourir, quelqu'un qu'ils ont entendu dire « tout est accompli » et qui a rendu l'esprit. Quelqu'un qui a crié « Eli, Eli, lama sabachthani ». Il leur était difficile de croire au message qu'on leur a apporté le matin. Comme quoi, celui-là même qu'ils ont vu mort est ressuscité. Ça a été difficile. Et pourtant, cela avait été annoncé. Et pourtant, cela avait été annoncé avant. Et eux, ils l'aimaient. Ça aurait dû, si on vous apprend aujourd'hui qu'un être cher à vous qui est parti, que Dieu l'a ressuscité, la première réaction que vous devriez avoir, que moi j'aurais en tout cas si on me l'annonce, c'est une réaction de joie. Amen. Que mon être, un tel que j'aimais tant, qui est parti, que Dieu, le Dieu de vie, le Dieu véritable, l'a ressuscité, je serai fou de joie. Amen. Non pas partir disant, c'est impossible, nous croyons en un Dieu qui ressuscite les morts. Mais pour Cléopas et son compagnon, c'était difficile. Pourquoi ? Pourquoi cela leur a été difficile de croire ? Parce que la résurrection est inhabituelle. On en parle très peu dans les églises. Même le jour de Pâques, beaucoup de gens n'y croient pas. Il y aura une résurrection des morts. Quand j'étais catholique, on nous enseignait qu'il y aurait une résurrection pour le jugement. Vraiment, tout à fait à la fin. Mais quant à la résurrection des saints qui seront enlevés, les catholiques n'y croient pas. C'est inhabituel. Ressusciter pour être enlevé. Et encore, je ne sais même pas s'ils croient en cette résurrection générale pour le jugement. Et pourtant, cela avait été annoncé. Chaque chose qui se passe, chaque détail que la Bible donne a un sens. Quand la Bible parle de Jonas, peut-être sur le moment, nous ne comprenons pas, mais c'est un message que Dieu révèle plus tard aux siens. Dans Jonas, d'abord, avant d'y arriver, chapitre 1er, nous lisons au verset 2, c'est Dieu qui parle à Jonas. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. En ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas désobéit. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. C'est vrai que ça avait étonné beaucoup de gens un jour, disant ici que Dieu n'est pas omniprésent. Abraham dit que c'est son omniscience qui fait qu'il soit omniprésent. C'est-à-dire qu'il sait toutes choses, tout ce qui se passe partout. Ici, Jonas, il fuit loin de la face de l'Éternel, pensant que Dieu ne sait pas le joindre là-bas. Ben non. Comme Adam s'était caché à un endroit, croyant que Dieu ne le trouverait pas. Et si Dieu était omniprésent partout, il n'y aurait pas de raison qu'il nous promette qu'il serait avec nous tous les jours, puisque, de fait, il est là. Non. Et il dit qu'il sera avec nous, au milieu de nous. Il descendit à Jaffa et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Aussi loin que vous pouvez aller, l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Tout ça, maintenant, ça devient normal. On va vous dire que Jonas a été victime d'une mauvaise météo. Il ne s'agit pas d'une mauvaise météo. C'est Dieu qui a fait souffler le vent. Le climat qui se dégrade actuellement, ne dites pas, c'est la faute d'eux. C'est Dieu qui fait dégrader le climat. Dieu a promis, n'est-ce pas? Dieu a permis, pardon, aux hommes de découvrir des choses comme le pétrole. C'est Dieu qui a créé le pétrole. Il l'a mis là-bas sous terre. Il l'a mis sous terre pourquoi? Pour que l'homme le découvre. Dieu nous a montré par la foudre que l'électricité, c'est sa création. L'homme a découvert, en faisant certaines choses, qu'il peut avoir de l'électricité. Cette électricité peut nous donner de la lumière. Maintenant, Jonas, quand il est pris dans la tempête, c'est Dieu qui a fait souffler la tempête vers lui. Et ainsi, il devait être jeté dans la mer. Et avant d'être jeté dans la mer, Dieu avait déjà préparé un poisson qui avalerait Jonas. C'est quelque chose d'étrange. C'est quelque chose d'inhabituel. C'est quelque chose d'incroyable. Qu'il y ait un poisson qui puisse avaler Jonas, on vous dira que ça n'existe pas. Mais tout ça, Dieu met en avant cette histoire, c'est aussi pour nous parler de la résurrection. De la mort et de la résurrection. Et cela, le Seigneur Jésus-Christ va lui-même en parler. Et le poisson ne va pas garder Jonas dans son ventre autant de jours qu'il voudra. C'est Dieu qui fixera le nombre de jours et le nombre de nuits. Amen. Au chapitre 2, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Ça va? Pourquoi nous donne-t-on ce détail? C'est tout simplement pour nous parler de ça, pour nous parler de la résurrection. Et Jésus-Christ va nous en parler dans Matthieu 12. C'est annoncé. Verset 38. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante. Un méchant, c'est celui qui connaît la parole et qui ne la met pas en pratique. Méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. C'est Jésus qui nous apprend que la mésaventure, entre guillemets, de Jonas, c'était un miracle. Ça va? Donc le poisson qui a avalé Jonas, c'était un miracle. C'est possible que la science ait raison que ce poisson-là n'existe pas. Mais ce jour-là, c'était un miracle. Et quelque chose d'inhabituel. Un requin, il dévore. Peut vous dévorer, mais pas vous avaler comme ça. Et il restait vivant 3 jours et 3 nuits dans son ventre. Jésus dit, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. C'était un miracle. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Il nous parle de sa mort et de sa résurrection. Et Jésus lui-même va confirmer, on va dire, nous parlions de Dieu, de cette religion qui vous parle de la mort de Dieu. Il dit, dans Apocalypse 1er, Jean qui posait sa tête sur la poitrine de Jésus-Christ pendant son ministère terrestre. Vous savez que pendant son ministère terrestre, il avait un autre aspect. Il n'avait pas des yeux qui lançaient des flammes de feu. Il n'avait pas cette description-là qui est donnée, n'est-ce pas, hein, des jambes d'airain, n'est-ce pas? Donc, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait une voix douce quand Jean posait sa tête sur son sein. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Jean dit, pourtant ce n'est pas la première fois que Jean le voit dans cet aspect-là. Dans Matthieu 17, Jean l'avait vu. Il était là. Mais malgré tout, ça a cet effet-là. Verset 17, « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier. » Qui est le premier et le dernier? C'est Jéhovah, l'Éternel. L'Éternel dit dans Isaïe, il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Et puis il nous rajoute, « Et le vivant. » S'il est le premier et le dernier, il n'est personne d'autre que Dieu. Et Dieu vous dit, j'étais mort. Dites amen à ça. Allah ne peut pas dire une chose pareille. Bouddha non plus. Disant, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est-à-dire, il a pouvoir sur la mort. Il contrôle la mort. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'était inhabituel et pourtant, c'est vrai. Quand je pense qu'il me dit, qu'il vous dit, qu'il faut naître de nouveau, quand je pense que vous pouvez renaître, je peux renaître selon sa parole, c'est étrange. C'est inhabituel, ça, renaître. Nicodème demande, dois-je retourner dans le sein de ma mère? Qui t'a dit que pour ta renaissance en question, il faut aller dans le sein de ta mère? Et hein? Quand moi, aujourd'hui, je peux renaître, je peux naître de nouveau, cette nouvelle naissance, ce n'est pas une renaissance, cette nouvelle naissance, n'est-ce pas, c'est quelque chose d'étrange. Et que Dieu me promet, que Dieu vous promet que vous ne serez plus les mêmes. Les choses anciennes sont passées. Cette chose à laquelle je tiens tant, je peux l'abandonner. Qui pouvait croire qu'un jour j'abandonnerais telle chose? Mais la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est agissante. Elle transforme. La Pentecôte, c'est aussi une œuvre divine. C'est une promesse du Père. C'est une chose inhabituelle. Ils avaient l'habitude, avant ce que nous nous appelons la Pentecôte, ils avaient l'habitude d'aller au temple. Allons dans Lévitique 23. Au verset 15, voici ce que eux, ils appelaient la Pentecôte. Mais en fait, c'était une préfiguration de la Pentecôte. Depuis, verset 15, « Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe qui sera agitée de côté et d'autre, c'est-à-dire l'agitation de la gerbe, là, c'est au verset 9 et 10, n'est-ce pas ? Eh bien là, ça nous montre, ça nous parle de la résurrection. Donc, à partir du jour de la résurrection, ça va ? Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du septième sabbat. Ça va ? Donc, jusqu'au sabbat, le septième sabbat, ça fait 49 jours. Ce qui vous montre que Jésus-Christ vient ressusciter le samedi. Ça va? Jusqu'au lendemain du septième sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures deux pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2/10 de fleurs de farine, et cuit avec du levain, ce sont les prémices à l'Éternel. Pentecôte, ça veut dire 50. Donc, vous compterez 50 jours. Outre ces pains, vous offrirez un holocauste à l'Éternel, cet agneau d'un an sans défaut, un jeune taureau et deux béliers. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous pouvez continuer à lire la suite. C'est ce qui se faisait ce jour-là, dans Acte 2, avant que le vent impétueux ne souffle. C'est ce qui se passait au temple, ces offrandes qu'on vient de lire, dans Lévitique 23. Et il est bien dit, dans Acte 2, il nous est dit, le jour de la Pentecôte, en fait, ils étaient en train de faire ce culte-là. Mais ce culte-là, tel qu'il avait été enseigné par Moïse, c'était prophétique. Prophétique de ce qui devait arriver ce jour-là dans Actes chapitre 2. Ça va? Donc, dans Actes chapitre 2, le premier verset nous dit, ça commence le jour de la Pentecôte. Donc, le 50e jour. Après avoir, n'est-ce pas, agité l'herbe, la gerbe devant l'Éternel. En fait, cette gerbe qu'on avait agitée 50 jours plus tôt, ça nous parle de la résurrection. Jésus-Christ était ressuscité 50 jours plus tôt. Ça va? C'était une prophétie. Jésus dit aux disciples, c'est une promesse, c'est la promesse du Père, dit à un enfant. C'est une promesse. Et puisque c'est une promesse, nous avons dit ici au début, Dieu fera de sorte, il enverra quelqu'un, ou il enverra quelques-uns, je ne sais pas, si c'est tout un groupe ou tout un peuple, pour manifester justement la parole, la rendre réelle. La Pentecôte, telle qu'elle se passe là, ce jour-là, alors qu'ils étaient nombreux à Jérusalem pour adorer, n'est-ce pas? Au verset 5 du chapitre 2 des Actes, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Ils étaient venus pour adorer. Eh bien, alors qu'ils étaient là, nombreux à adorer, il s'est passé quelque chose d'inhabituel. D'habitude, ce jour-là, ça n'arrivait pas. La Pentecôte, telle que nous la connaissons aujourd'hui, l'effusion du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit descende en quelqu'un, ce n'était que le privilège de certaines personnes. Ça n'arrivait pas à tout le monde. Par exemple, si nous étions dans l'Ancien Testament, là-bas, en étant assemblés ici, tel que nous sommes assemblés, par exemple, je serais peut-être le seul à être rempli du Saint-Esprit. Et pas vous, par exemple. Ou quelqu'un d'autre qui doit prophétiser là. Et encore, l'Esprit pouvait se retirer. Nous vivons maintenant un temps où l'Esprit vient et reste. Et il est même utilisé comme sceau, où Dieu termine l'œuvre. Dans 1 Pierre, chapitre 1er, Pierre nous dit les prophètes avaient ce privilège-là. 1 Pierre, chapitre 1er. Verset 10, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Ils avaient l'Esprit de Christ en eux. Dans Romains 8, il nous est dit, aujourd'hui, l'Esprit qui était en Christ est en nous et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Donc, les prophètes pouvaient en bénéficier. David, qui était prophète, n'est-ce pas? David a eu ce privilège-là d'avoir l'Esprit de Christ en lui, ce qui lui a permis de chanter « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce qui lui a permis de chanter « ils ont pris ma tunique ». Ce qui lui a permis de chanter le calvaire, parce qu'il était animé de l'Esprit. Jésus le dit même aux Juifs dans Matthieu 22. Verset 41, « Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, « Que pensez-vous du Christ ? De qui est-il le Fils ?» Ils lui répondirent, « De David. » Et Jésus leur dit, « Comment donc David, animé par l'Esprit ?» Dites amen à ça. David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » C'est ce qu'on a dit tantôt. Animé par l'Esprit, David a chanté le calvaire. Des gens comme Betsaléel et Oholiab, Dieu les avait remplis de l'Esprit. Au milieu des enfants d'Israël, il y avait Moïse, bien sûr, qui était prophète. Dans Exode 31, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Ouri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres enchâssées, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. » Et maintenant, le Saint-Esprit qu'ils ont reçu, tous ces ouvrages qu'ils vont effectuer, ce seront des ouvrages en rapport avec le temple. C'est quand Dieu vous remplit de l'esprit, un esprit d'intelligence, mettez, si vous voulez mettre ça au service de Dieu, faites-le pour sa maison. Amen. Dieu a fait des dons à des gens. Les véritables croyants, n'est-ce pas, utilisent ces dons pour la gloire de Dieu. D'autres utilisent ces dons-là pour le diable. Un chanteur comme Elvis Presley, il avait un véritable don pour chanter. Mais il chantait pour le monde. La gloire du monde. Moïse avait refusé que ce qui était en lui, qu'il fasse profiter l'Égypte de ça, il a préféré aller vers le peuple de Dieu, vers ses frères. Amen. Hein? Le dimanche passé, on a un peu parlé de la chorale. Vous savez, dans certains événements, aujourd'hui, vous pouvez louer une chorale. Moi, j'ai déjà assister à des mariages où des chorales sont louées, qui n'ont rien à voir à faire avec les mariés. Si ce n'est qu'ils ont eu un contrat, n'est-ce pas ? On leur a remis un cachet, ils ont chanté, ils ont été payés et ils sont prêts. Et ce sont des gens qui chantent bien, qui chantent même très bien. C'est Dieu qui leur a fait ce don-là, mais qui le monnaie. Non, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et voici, verset 6, je lui ai donné, à Betselaël, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamac, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Pour qu'ils fassent ce que Dieu a ordonné à Moïse. Et nous, c'est pareil. Quand Dieu nous fait des dons, c'est pour que nous fassions ce que Dieu a ordonné à Moïse, et pas autre chose. Amen. Ils ont tous, le jour de la Pentecôte, ce n'était pas une fête nouvelle. Dieu parle dans Lévitique 23, il s'agit d'une offrande nouvelle. Mais ce n'était pas une fête nouvelle, pas du tout. Mais ce qui s'est passé ce jour-là, c'était nouveau. Jamais la Pentecôte ne s'était passée comme cela jusque-là. Et cette Pentecôte, quand elle est arrivée, elle a transformé des gens. Nous voyons ici esprit d'intelligence, de sagesse, et ainsi de suite, pour le travail divin. Un Pierre qui ne savait pas lire, qui ne savait pas écrire, un Pierre pouvait aligner les Écritures. Un Pierre qui, quelques jours auparavant, une cinquantaine de jours auparavant, avait tremblé dans la cour du souverain sacrificateur devant une servante, Pierre, ce jour-là, quand cela s'est passé, Pierre était désormais un homme courageux. Et il pouvait parler à une foule tout entière. Pierre les autres qui s'étaient éparpillés dans le jardin de Gethsémané plus de 50 jours avant, eh bien, ce jour-là, ils se sont affichés à côté de Pierre et ils ont commencé à parler dans des langues étrangères. De telle sorte que ceux qui étaient là, qui venaient d'autres nations, pouvaient les entendre parler. C'était des hommes nouveaux. C'était des hommes qui avaient changé. Vous et moi, c'est pareil. Il y a un travail étrange que Dieu a fait en nous, qu'un timide que je pouvais être, désormais, je ne le suis plus. Je peux parler de Jésus-Christ dans la rue. Si on m'avait dit ça il y a quelques années, je n'aurais pas cru. Et Dieu a fait au-dedans de vous et de moi un travail. Les gens diront que vous êtes devenus bizarres. Mais non, c'est un travail inhabituel que Dieu a fait en vous. Marie-Madeleine, de qui on a chassé 7 démons, était devenue une vraie sainte. C'est inouï. C'est inhabituel. Mais ça, à la Pentecôte, c'était pour certains avant la Pentecôte, l'Esprit de Dieu, pardon, c'était pour certains privilégiés. Mais le jour de la Pentecôte, ils ont été tous dans la chambre haute rempli du Saint-Esprit. En fait, c'était une vieille promesse que Dieu accomplissait au travers d'eux. Une promesse faite depuis Joël, le prophète Joël. Et Pierre va le confirmer. Actes chapitre 2. Verset 15. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit, pas seulement sur Oholiab, ni Betsaléen, mais sur toute chair, sur tout le monde, sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Il ne s'agit plus seulement que d'Ézéchiel, mais les fils et les filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Maintenant, le Saint-Esprit, c'est pour tous ceux qui lui demandent. Il suffit de lui demander. Luc 11, 33. Le Saint-Esprit, c'est pour tous ceux qui lui obéissent. Actes 5, 32. Pour vos enfants. Pour vous-même. Pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Dieu est inhabituel. Et il a pris du milieu des nations, il a pris des gens simples, des gens qui croiraient en sa parole. Vous savez, pour annoncer la naissance de Jésus-Christ, le fait d'avoir choisi des bergers, ce n'est pas anodin. C'est parce que les bergers étaient des gens simples, qui ne poseraient pas de questions. Comment ça, le Messie naître dans une étable? Ben oui. Ils n'ont pas posé de questions, ils se sont levés et ils sont allés et ils ont adoré. Et c'est pareil pour vous, c'est pareil pour tous ceux que le Seigneur a appelés. Comme on l'a vu dimanche, Abraham ne s'est pas posé de questions. Quand on l'a appelé, il obéit et parti. Ça va? Oh, le travail de Dieu en nous, c'est un travail qu'aucune autre religion ne peut faire. Les autres religions peuvent faire de nous des fanatiques. Et même peuvent faire de nous des assassins. Parce que les gens ne croient pas comme nous, on veut les forcer à croire, on les tue. On les menace de mort. Mais nous, notre religion, telle que Dieu nous enseigne par sa parole, nous ne tuons pas. Même pas nos ennemis. Ça va? Quand on vient nous tuer, on s'étonne. Il y en a qui s'étonnent, ils disent, mais votre Dieu, il ne réagit pas. Notre Dieu, tout est planifié. Il ne fait rien au hasard. Tout ce qui se passe, Ça ne l'étonne pas. Il sait que ça devait arriver. Oh, et son travail est inhabituel. Son travail inaccoutumé. C'est ce qu'il fait. C'est une religion qui transforme les gens. Les chrétiens sont des gens différents des autres nations. Parce que leur Dieu est différent. Leur Dieu a des yeux et il voit. Leur Dieu, le Dieu des chrétiens, a des oreilles, il entend. Il a une bouche, il parle. Il a des mains, il agit. C'est lui qui a créé nos corps. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous te remercions ce soir. Tout le travail accompli au milieu de nous. Un travail étrange, inhabituel, pourtant véritable. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci pour tes actions au milieu de nous. Merci pour la grâce que tu nous as apportée, que tu nous fais. Merci pour le pardon de nos péchés. Toutes ces choses qui semblent invraisemblables, pour nous, elles résonnent d'une manière véritable dans nos cœurs. Elles sont véritables. Que Jésus-Christ est venu, il est mort, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité au troisième jour pour notre justification. Nous le croyons de tout notre cœur. Le monde a du mal à le croire. Même beaucoup de croyants ont du mal parfois à le croire. Mais parce qu'ils t'aiment, ceux qui t'aiment, tu les visites et tu confirmes. Tu dis que ce que les prophètes ont dit, c'est la vérité, ce qu'ils ont dit de toi. Merci pour cela. Maintenant, nous voulons te remettre notre chemin du retour entre tes mains. Nous voulons te demander de nous assister, de raccompagner chacun d'entre nous. Et si tu tardes à venir, de nous conduire, ô Dieu, dans nos maisons respectives, alors que nous allons entrer, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, t'avons prié. Amen. Dieu vous bénisse.